Un grand merci à toi, Evelyne, pour cette lecture. Avant d'aller plus loin, chers amis, je dis maintenant pour les enfants qui sont en bas dans la salle du culte, vous pouvez monter, vous pouvez accompagner Jemima, et à ce moment-là, vous allez vous suivre l'école de dimanche à la maison. Si vous êtes vous déjà à la maison, alors on vous dit que vous pouvez trouver une autre salle dans la maison. Vous pouvez cliquer sur le lien que vous trouverez en bas de page, ou pas en bas de page, juste en dessus, ici de là où moi je parle, et vous pouvez donc suivre l'école de dimanche sans difficulté comme cela. Juste deux, trois autres annonces pour la semaine, chers amis, avant de voir avec vous ce texte que nous venons de lire. Il y aura directement après notre culte, il y aura le Zoom. Pour ceux qui sont à la maison, on veut continuer à vous encourager à ne pas perdre le contact les uns avec les autres. Et un bon moyen de faire cela, c'est dimanche après dimanche, prendre des nouvelles des uns et des autres virtuellement via ce rassemblement de Zoom où on partage quelques nouvelles entre différentes personnes. Donc, le lien pour le Zoom est ici en dessous. Normalement, vous cliquez sur le lien et vous y arriverez sans difficulté. Et donc, je vous souhaite une bonne discussion pour ceux qui sont à l'église. Nous, on a notre propre discussion à l'extérieur après le culte. Sinon, pour cette semaine, nous avons une nouvelle fois une étude mardi soir. Je pense que normalement, le lien pour le Zoom sera envoyé dans le mail que nous envoyons d'habitude ce soir ou demain matin. Et donc, ce serait une dernière étude dans l'évangile de Jean, chapitre 17, et ce serait avec Benjamin. Et donc, je vous encourage à y participer. Après cela, normalement, jeudi, il y a aussi un slot, un point théologique. Nous essayons d'aider les uns les autres à capter un enseignement biblique sur un sujet. Et ce serait mené cette fois-ci par Benjamin. Benjamin est de retour avec nous après quelques jours de repos en France. Content donc qu'il reprend avec nous. Je mentionne pour nos prières, chers amis, également Daniel Maheu qui se fait opérer cette semaine pour ses narines. Nous pensons à Daniel qui a été beaucoup coupé du contact avec tout le monde parce qu'elle est dans un home où ce n'était pas possible pour nous de la voir. Donc, pensons à elle. Et aussi, pensons à Christiane Guess, Christiane qui, elle aussi, se remet suite à son opération à elle. Et on demande de la prière. Il y a de quoi prier dans notre vie d'église, chers amis. Donc, continuons à prier les uns les autres. Je vais encore mentionner quelqu'un d'autre d'ici peu lors de la prédication. Bon, alors, on reprend dans Jean chapitre 11 et je pense que ce serait une bonne chose qu'on prie une nouvelle fois ensemble avant d'aller plus loin. Donc, je vous invite à la prière avec moi. Seigneur, où irions-nous? A dit Simon-Pierre. Tu as les paroles de vie éternelle. Et nous te prions, Seigneur, que nous soyons donc à ton écoute ce matin. Nous te prions que nous puissions passer de la mort à la vie si nous n'avons pas encore placé notre confiance en Christ. Donne-nous d'écouter ta voix. Donne-nous de t'aimer parce que nous voyons à quel point ce que tu es a fait pour nous et digne de notre amour. Donc, sois avec nous, nous te prions, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, peut-être vous l'avez constaté lors de la lecture de ce chapitre 11 de l'évangile de Jean, gardez cela sous les yeux, cela vous serait utile. Mais aujourd'hui, nous abordons ces mots de Jésus bien connus. Je suis la résurrection et la vie, disait-il. On appelle Ben. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là, maintenant, chers amis, il me semble que nous avons un petit problème de connexion. Je vais continuer à juste parler comme ça, sans faire la prédication, au cas où il y a moyen de trouver une solution. Maïva, qui est avec moi ici, elle essaie de régler des choses. Donc, patience, si vous voulez bien, et on sera de nouveau avec vous dans quelques instants. Alors, il me semble que nous avons encore une difficulté. On m'entend ici? Oui, donc on m'entend, mais je vais devoir, chers amis, faire appel à de l'aide. Donc, je vous encourage de trouver un café, chercher un verre d'eau, discuter avec celui qui est à côté de vous, et on verra par la suite comment nous pouvons progresser. Voilà, de l'aide arrive. C'est très bien. Voilà, il y a deux techniciens maintenant en train de travailler devant moi. Nous ne savons pas encore si cela marche. Je ne sais pas si vous m'entendez d'ailleurs. On n'entend rien? Je pars encore?
Non, le son est là, les gens nous entendent, mais il n'y a pas la vidéo, ça va revenir.
Voilà, ça va revenir la vidéo, ça va revenir, ne vous inquiétez pas, ça nous donne tous un petit moment où on peut souffler, on peut tourner vers celui qui est à côté de nous, on peut leur dire à quel point on les apprécie parce qu'on n'a pas fait ça encore cette semaine, on peut dire qu'on prie pour qu'on soit bien patient par rapport à la technologie. On peut être rapidement dans la cuisine, vérifier. Ah, je pense que tout va bien, non seulement dans votre cuisine, mais aussi ici, maintenant, chez nous. Je pense que nous sommes de retour. Oui, j'ai confirmation que tout va bien. Donc, on va reprendre une nouvelle fois. Jean chapitre 11, chers amis, nous y sommes. Et nous sommes avec ces mots de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Et pour aborder ces mots-ci, nous devons aussi aborder le sujet de la mort. Et dans un sens, le COVID-19 a remis la mort sur le devant de la scène pour nous en Occident. Presque 10 000 décès en Belgique, plus de 556 000 dans le monde entier. Et cela nous aide à rappeler que peu importe notre âge, peu importe notre nationalité ou race, peu importe notre rang dans la société, tout le monde est égal devant la mort. Cette crise nous a rappelé que la mort n'est pas aussi loin de chacun d'entre nous. Les masques nous rappellent de ce danger, n'est-ce pas, pour ceux qui sont en bas, mais pour nous qui se trouvent dans la rue, dans les commerces, de trouver tout le monde avec un masque, ce n'est pas quelque chose dont nous sommes habitués. Mais ça nous rappelle à quel point les êtres humains sont fragiles. Pensez que quelques postillons tout petits pourraient nous mettre à plat et en danger. Alors cela nous rappelle qu'aucun d'entre nous est à l'abri de la mort. Et je dois vous partager également que juste avant de commencer ici devant vous, j'ai reçu un SMS de Wissam, de notre assemblée, qui disait que son père vient de décéder en Syrie. Et donc, nous prions avec Wissam par rapport à cette perte. Nous sommes rappelés de la fragilité de chacun d'entre nous. Mais c'est vrai qu'en même temps, notre société fait de son mieux de maintenir une distance entre notre vie quotidienne et la mort. Si possible, un citoyen normal, on dirait, évite les endroits où la mort s'y trouve. Les homes, nous n'avons même pas eu accès jusqu'à il y a 15 jours. Les cimetières font rarement partie d'une balade en famille. Même à l'hôpital, la morgue se trouve dans un endroit où rien que le staff autorisé a accès à cela. Même dans le langage que nous employons, il y a de plus en plus cette réalité d'éviter de parler de la mort. C'est le cas pour ma langue, à moi, de l'anglais. Dans le temps, nous avons parlé de death, de décès. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus du passing, on dit, ou le passage de quelqu'un, pour rendre cette réalité de la mort un peu plus abordable. Mais pourquoi cette réticence de faire face à la mort? Parce qu'on ne sait pas quoi dire face à la mort. Dans une vision purement matérialiste du monde, il n'y a effectivement rien à dire. La mort, selon cette vision, n'est qu'un fait dans un système matériel. Ce n'est ni bon ni mauvais, ultimement. C'est simplement une réalité. Dans le présent, on vit, on meurt. Cela arrive. La vie continue pour certains, la vie s'arrête pour d'autres. La mort, c'est la fin de la vie. La mort met un terme à tout. La lutte pour la vie, c'est tout ce qui reste. Car on ne vient de nulle part, selon cette vision, et on va nulle part. Nous sommes l'accident d'un processus aveugle et sans intelligence. Mais une telle vision se heurte à notre ressenti face à la mort. Ce qui expose, je pense, la pauvreté du récit matérialiste que le monde continue à croire. Car la mort continue à représenter, malgré tout, nous venons de le dire pour Wissam, une rupture pour la plupart d'entre nous. Une rupture douloureuse avec la vie, une rupture relationnelle, cruelle et mauvaise. Nous n'avons rien qu'à penser à ce conducteur de bus à Bayonne en France, Philippe Manguillot, pour de nouveau nous rappeler à quel point c'est terrible ce qui s'est passé. Un jour, moi, j'étais à côté d'une femme que je connaissais qui pleurait suite au décès d'un homme que nous avons tous les deux connu. Elle savait que moi, j'étais chrétien et elle me disait qu'elle pleurait car la mort est cruelle. Cela mettait un terme définitif à la vie. C'était la fin, c'est ça ce qu'elle a dit en voyant le cercueil descendre dans la terre. Et elle s'est tournée vers moi et elle disait: mais toi, Steve, tu ne crois pas ça, n'est-ce pas? Pour toi, tout va bien. Alors, comment répondre à cela? Ben, j'ai répondu avec le verset 35 de Jean chapitre 11. Jésus, face à la mort, que faisait-il? La phrase la plus courte du Nouveau Testament, Jésus pleura. Non pas, nous le verrons, car il se sentait, lui, incapable face à la mort, non, pas non plus car il lamentait à ce stade la rupture de son amitié avec Lazare. C'est ça ce que les autres pensent, n'est-ce pas, au verset 36. Les Juifs disaient donc, c'était vraiment son ami. Il croit qu'il est désemparé de désespoir comme eux. Mais sa tristesse n'est pas tout à fait la même. Après tout, il sait qu'il est sur le point de revoir Lazare, lui. Mais s'il pleure, il pleure car la mort est un affront à la vie pour laquelle nous avons été créés. La mort témoigne de cette rupture, de cette tristesse. La mort témoigne de quelque chose qui ne va pas sur la terre. Jésus lui-même le reconnaît. Mais si on se concentre ce matin sur les mots du verset 25, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie », c'est parce que comprendre ce que Jésus dit ici transforme notre propre réaction face à la mort. Et cela, c'était la deuxième partie que j'ai voulu partager avec cette dame qui était à côté de moi. Comprendre les propos de Jésus ici nous permet d'ailleurs de dire plus dans un autre monde que simplement pleurer avec ceux qui pleurent. Pleurer, oui, il faut aussi le faire, Mais si nous sommes croyants en Christ, nous ne le faisons pas comme ceux qui sont sans espérance. Cette histoire dans laquelle cette phrase tellement connue, « Je suis la résurrection et la vie » se trouve, démontre comment Jésus lui-même peut être notre espérance. Car ce récit termine avec le miracle de la résurrection de Lazare. Un homme qui était mort depuis 4 jours, un homme dont le cadavre commençait à émettre une odeur très désagréable. Cela suscite la réaction de Marie au verset 39. « Seigneur, ils sont déjà, c'est le 4e jour. » Jésus, alors qui réclame dans cette phrase « Je suis la résurrection et la vie », il réclame le nom de Dieu lui-même lorsqu'il dit « Je suis, c'est moi qui suis », le nom que Dieu avait révélé à Moïse. Ben, Jésus a ressuscité un homme de la mort. Il effectue un vrai miracle, comme Dieu peut le faire. Un miracle tellement clair que ceux qui s'opposaient à Jésus cherchent, suite à cet épisode, non seulement à mettre Jésus à mort, vous pouvez voir ça au verset 53 de ce chapitre 11, mais aussi de mettre à mort Lazare. C'est ça ce que nous voyons au chapitre 12, versets 10 à 11. Les principaux sacrificateurs délibèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc, il n'y a pas de doute au sujet du miracle qui a eu lieu. Mais alors, quelle est la portée de ce miracle, ce signe pour nous aujourd'hui? Alors, je vais partager 3 choses avec vous. Ce miracle, ce signe nous parle de 3 choses. D'abord, ce signe nous parle de l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus, il veut nous faire grandir dans la foi. L'amour de Jésus va plus loin que son amitié avec cette famille, Marthe, Marie et Lazare. L'amour de Jésus vise plutôt la croissance de la foi de cette famille en lui, en Jésus-Christ. Cela éclaire dès le verset 6. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Bah, selon des spécialistes, nous pensons qu'il était à peu près 150 km de Bethanie, là où il y avait Lazare et sa famille. Cela prenait à peu près 4 jours pour arriver, pour faire le trajet jusque là où il se trouvait. Et donc Jésus tarde 2 jours avant de se mettre en route. À ce moment-là, verset 11, Jésus annonce aux disciples que Lazare est mort. Il le précise au verset 14, car les disciples comprennent son expression, il s'est endormi, et puis il ajoute, « Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. » Jésus donc faisait exprès de tarder. Et on me dit que cela fait preuve de son amour? Oui, car ainsi il n'y avait pas de doute. Lors de son arrivée, Lazare était mort, bel et bien mort, de 4 jours. Et cela fera en sorte que le miracle qu'il effectuera Jésus par la suite serait incontestable. Et c'est ainsi que les disciples, mais également cette famille proche de Jésus, grandiront dans leur foi. On entend la déception d'ailleurs des 2 sœurs lorsqu'elles saluent Jésus une fois qu'il arrive sur place, chacune à leur tour. D'abord, il y a Marthe, verset 21, toujours cette femme d'action qui se précipite pour aller à la rencontre de Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ensuite, il y a Marie qui, quant à elle, elle reste à la maison. « Seigneur, verset 32. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et dans un sens, même à ce stade, les 2 femmes croient déjà en Jésus. Marthe sait que Dieu répond aux prières de Jésus. Le verset 24 nous dit qu'elle sait qu'il y aura aussi une résurrection à la fin des temps à laquelle son frère Lazare participera. Elle croit que Jésus est le Messie, l'homme envoyé par Dieu, et qu'il peut par conséquent guérir des malades, mais elle ne croit pas encore qu'il peut ressusciter les morts. C'est un peu dans la même réaction que nous voyons de ceux qui regardaient Jésus pleurer. Il se disait au verset 37, « Lui, Jésus qui a ouvert les yeux de l'aveugle, c'est le chapitre précédent, le chapitre 9 où il a fait cela, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Mais dans un sens, nouveau, ce qu'il dit est juste, n'est-ce pas? Il aurait pu empêcher la mort de Lazare. Mais dans un autre sens, cela révèle à quel point leur foi est faible, défaillante. Ils n'ont aucune compréhension encore de la profondeur de la personne de Jésus, de qui il est. Donc, ils doivent grandir dans leur foi. Il fait exprès dans cet épisode de voir grandir la foi en lui. Et c'est bien cela qu'il fait aussi avec nous ce matin, avec vous. Il veut faire grandir notre foi. La foi, ce n'est pas un attribut, comme par exemple une aptitude pour bien maîtriser des langues. Ah, il est très fort en langue, on dit de quelqu'un. Mais sous-entendu, moi je ne le suis pas. Alors, toi, tu as la foi, sous-entendu, moi, je n'en ai pas. Non, la foi en Christ se développe en fonction de notre confiance dans la personne de Christ. Plus que nous comprenons qui il est, plus nous sommes en mesure de lui faire confiance. Est-ce que vous le faites confiance actuellement? Souvent, lorsque quelque chose de difficile nous arrive dans la vie, nous nous demandons, mais pourquoi? Et même des croyants demandent, mais pourquoi Dieu? Pourquoi tu tardes à répondre à mes prières? Est-ce que vous m'aimez pour du vrai? Mais justement, est-ce qu'il tarde à répondre parce qu'il nous aime? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il souhaite qu'à travers une épreuve, que nous grandissons dans notre foi. Bien entendu, il n'y a pas de plus grande épreuve que celle de la mort. Être face à la mort, c'est de mettre à l'épreuve l'authenticité de notre foi. Suis-je réellement confiant que Jésus prend soin de moi? Sais-je réellement que je serai en paix avec Dieu si je meurs? D'un coup, le masque tombe un peu pour chacun d'entre nous. On découvre ce qu'on pense réellement lorsque nous sommes face à la mort. Pour certains, c'est vrai, la mort est encore loin. Du moins, nous l'espérons, nous ne le savons pas. Pour d'autres, la mort est beaucoup plus proche. Nous le savons. Mais de nouveau, cette crise de COVID-19 nous rappelle qu'on ne sait pas pour finir à quel moment nous serons face à la mort. Et ce récit a pour but de nous aider à grandir dans la foi chrétienne pour que nous soyons prêts pour ce jour de notre mort. Car notre deuxième constat de ce passage, ce miracle nous parle également de la gloire de Jésus, à savoir son autorité sur la mort. Oui, ce miracle nous parle de la gloire de Jésus, à savoir son autorité sur la mort. Dans l'évangile de Jean, tous les signes, tous les miracles fonctionnent pour nous ouvrir les yeux à contempler la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Cela, Jean nous l'avait dit dans l'introduction, le prologue de son livre au chapitre 1. La parole est devenue chair, et elle a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire du Fils unique, issu du Père. Et au verset 4 de notre texte aujourd'hui, le chapitre 11, « Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Si Marthe croyait dans la résurrection générale, au verset 25, Jésus monte un cran de ce qu'il dit. Une chose inouïe, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Ça, elle n'avait pas encore capté. Et ce signe nous pousse donc à comprendre qu'effectivement Jésus lui-même est la résurrection et la vie. Ce n'est pas juste que Jésus parle de la résurrection, qu'il indique le chemin de la vie. Il est lui-même la résurrection et la vie. Et écoutons ce qui suit pour mieux comprendre ce que cela signifie. « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Oui, la mort physique nous attend tous. Mais malgré cette mort physique, celui qui croit en Jésus vivra, car il sera ressuscité. Car Jésus, il est la résurrection. Non seulement la résurrection, mais aussi la vie. Jésus est la vie, car quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Ici, Jésus, comme ailleurs dans l'évangile de Jean, il parle de la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie du royaume de Dieu, la vie de Jésus lui-même. Il est la vie. Quiconque a cette vie-ci ne mourra pas. Car si nous avons la vie indestructible de Jésus, nous ne mourrons plus. Alors la mort spirituelle de l'homme entraîne le jugement de Dieu, le châtiment éternel de Dieu, ce que la Bible appelle la seconde mort. Mais ceux qui croient en Jésus ne mourront pas, il dit. Car une telle personne est transportée de la mort à la vie. Tandis que laissé à lui-même, l'être humain va de la vie à la mort. Selon Jésus au chapitre 5 de l'Évangile, « Celui qui entend ma parole et croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne sera pas condamné. » Il a passé de la mort à la vie. Pendant le confinement, nous avons aussi appris le décès d'un grand évangéliste apologète, chrétien, indien-canadien, Ravi Zacharias. Un homme qui s'est converti à Christ à l'âge de 17 ans, après une tentative de suicide, car lui, il désespérait à 17 ans de manque de sens à la vie. Il avalait du poison qu'il avait pris du laboratoire de l'université. Mais alors qu'il se trouvait dans un hôpital de Delhi pour se remettre des suites de cette tentative de suicide, il est tombé sur les paroles de Jésus que l'apôtre Jean raconte au verset au chapitre 14. « Parce que je vis, vous vivrez aussi. » Ces sept mots ont changé la trajectoire de la vie de Ravi Zacharias et ils sont gravés aujourd'hui sur sa pierre tombale. Il est décédé il y a à peu près un mois ou deux mois. Un homme est passé de la mort à la vie. Et ensuite, il a dédié sa vie à convaincre d'autres à faire de même. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Mais comment est-ce que nous savons alors que ce que Jésus dit ici est vrai? Ben, l'histoire raconte ce qui s'est passé à Lazare, n'est-ce pas? On va relire à partir du verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est moi qui, que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les preuves sont là. Il a été mort, il est mort depuis 4 jours. Ensuite, les témoins parlaient de sa résurrection publiquement. Les ennemis de Jésus ne niaient pas ce miracle. Au chapitre 12, les amis de Lazare et de Jésus tiennent un dîner à l'honneur de Lazare. Lazare est bel et bien ressuscité à la vie. Mais vous savez quoi? Il allait quand même encore mourir, Lazare. Car cette résurrection-ci de Lazare n'est qu'un signe d'une autre résurrection. Cette résurrection de Lazare préfigure cette autre résurrection. Car le dernier signe, miracle dans l'évangile de Jean, c'est la résurrection de Jésus lui-même, qui suit sa mort sur la croix. Car oui, au cœur de la foi chrétienne, il y a la mort et la résurrection de Jésus. Jésus lui-même, bien qu'il soit la vie, il meurt. Lui qui ne méritait pas la mort. Lui plutôt, verset 33, qui est indigné, outragé par la mort, par le péché de chacun d'entre nous, qui entraîne la mort, une rébellion qui se manifeste dans l'incrédulité de la part de tout le monde à son égard. Mais il meurt quand même pour donner la vie à celui qui est mort spirituellement parlant. Car en mourant, il prend sur lui la punition que notre culpabilité, notre aveuglement spirituel, notre indépendance à l'égard de notre Créateur et notre juge méritent. Et à la place de notre mort, la seconde mort, le châtiment éternel, il nous donne la vie, sa vie. À lui, il est, voyez-vous, la résurrection et la vie. Suprêmement, Jésus est glorifié lors de sa mort et de sa résurrection. Ce signe, la résurrection de Lazare, n'est qu'une petite ombre de ce signe glorieux de Jésus lui-même. Le Dieu, vous voyez, que les chrétiens adorent, c'est le Dieu qui se donne pour nous. Lui-même, il a accepté de devenir chair, de vivre en tant qu'être humain et de donner sa vie parfaite pour nous. Ravi Zacharias, lui, il n'était pas un homme parfait. Il aurait été le premier d'avouer cela. Mais il connaissait quelqu'un qui l'était, un homme parfait. Et il faisait tout dans son pouvoir, de le recommander aux autres. Car, dernièrement, ce signe aussi nous parle de l'appel de Jésus. L'appel de Jésus, c'est là où on va terminer. Verset 15, qu'est-ce que nous avons déjà lu? « Afin que vous croyiez. » Verset 26, la question qui pose Jésus, « Crois-tu cela ?» Encore aujourd'hui, Jésus-Christ ressuscité nous appelle à la foi en lui, à croire en lui, à lui faire confiance pour notre propre mort. Pour Jésus, le Christ, Dieu en chair humaine, la résurrection n'est pas une chose difficile. Pour lui et pour tous ceux qui se confient en lui, ce n'est pas difficile qu'il nous prenne de la mort à la vie. J'aimais ce que Ravi Zacharias a dit pour donner une image d'à quel point c'est facile pour Jésus de faire ça pour nous. tout comme l'étreinte puissante des bras d'une mère sur son enfant en sanglots le calme, il en sera de même de l'étreinte du ciel sur nos âmes. C'est aussi facile pour Jésus de nous ressusciter de la mort à la vie qu'un maman qui calme son bébé qui pleure avec un câlin. C'est uniquement la foi en Jésus-Christ qui permet cette confiance. J'ai deux bons amis qui, tous les deux, ont mon âge à moi. Je ne vous dis mon âge. Je ne vous dis pas mon âge à moi, à vous de deviner. Et tous les deux, d'une manière inattendue, il y a à peu près 10 ans maintenant, ont perdu subitement leur papa. L'un de ses papas avait 55 ans, l'autre avait 62 ans. Ce n'est pas la perte d'un proche qui n'était pas douloureux pour le chrétien. L'un de ses amis est chrétien, l'autre n'est pas chrétien. Non, mon ami chrétien pleurait, non seulement pendant la semaine des funérailles, mais pendant des mois, voire même des années. Il se retrouvait, malgré lui, en larmes. Son père lui manquait. Son père lui manque, je dirais, encore aujourd'hui. C'était le cas aussi pour le non-chrétien lors de ses funérailles. Beaucoup d'émotions. Mais l'un des décès, il y avait, malgré la peine, il y avait de l'espoir, de la joie, de la reconnaissance. L'autre, il y avait une absence totale de joie, rien que de l'amertume d'avoir perdu son père aussitôt, le désespoir. Dans un cas, Dieu avait appelé quelqu'un à la vie. Dans l'autre cas, la personne expérimentait la mort, la seconde mort. C'est une sombre réalité, n'est-ce pas? Et ça me pousse à vous demander ce matin, chers amis, qu'est-ce que vous croyez vous-même? Vous devez poser la question pour avoir de l'espoir lors de votre propre mort. Peu importe votre âge, peu importe votre nationalité, peu importe votre race, peu importe votre rang dans la société, nous devons avoir une espérance face à la mort. Et la seule espérance, c'est la foi en Jésus-Christ. Notre dernier chant que nous allons chanter nous dit ceci. « Je veux, ô mon divin roi, alléluia, mourir et naître avec toi, alléluia. » Est-ce que vous voulez chanter cela? « Je veux, ô mon divin roi, mourir et naître avec toi. » Pourquoi on chante cela? Verset 26. « Quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Alors je vous invite à prier, chers amis. Quel privilège, Seigneur, d'écouter ces paroles de vie de Jésus. Quelle joie de savoir qu'il nous invite à la foi. Il nous invite à lui faire confiance et de découvrir donc la vie, l'espérance qui dure pour l'éternité. Seigneur, aide-nous de nous approcher de toi. Tous ceux qui jusque-là t'ont gardé à distance, qu'ils s'approchent de toi par la foi. Et aide-nous les autres qui ont peut-être déjà fait ce pas de foi, de continuer à maintenir notre confiance en toi. Parce que nous voyons à quel point tu en es digne. Tu es capable de nous ressusciter de la mort à la vie. Que tu sois glorifié, Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Je cède ma place de nouveau à Samuel.